Monsieur le professeur.
Ah, j'adore.
On le
ouais, c'est des élèves qui me l'avaient chanté.
Yeah. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits.
J'adore.
Ce sont les projections du ministère de l'Éducation nationale. La France va perdre 15% de ses élèves d'ici 9 ans. Le monsieur le ministre, dont tout le monde se souvient du nom, monsieur
Geoffrey.
Prénom
Jefferson.
J'ai pas. Je l'ai pas.
Édouard.
Édouard Geoffrey, les syndicats.
Monsieur Édouard Geoffrey l'annonce. 1 700 000 élèves en moins d'ici 2035. Et il parle lui-même de vagues sismiques.
Oui, bah, 1 700 000, c'est pas rien. C'est-à-dire, par exemple, dans le seul premier degré, c'est 933 000 élèves en moins. C'est là où il y a, la baisse sera la plus importante. Dans le premier degré, c'est maternelle et primaire. Alors, il va falloir, bien sûr, s'adapter. Et alors, je disais, Geoffrey, les syndicats, parce que bien sûr, les syndicats commencent à s'inquiéter. Non, ne supprimez pas nos postes. Oui, alors pourtant, il y a une fenêtre de tir. Il y a 300 000 professeurs qui vont partir à la retraite d'ici 2030. Ouais. Alors, est-ce que on en profite pour faire des économies? Je rappelle que le budget éducation nationale, c'est le premier budget de la France, puisqu'il va falloir adapter quand même le nombre d'enseignants au nombre de profs. Eh bien non, les syndicats nous expliquent qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas que ça soit mathématique. Profitons pour faire des classes avec moins d'élèves par classe. Et donc, d'ailleurs, ça a commencé. Dans le budget qui était prévu au départ de monsieur Lecornu, il y avait pas mal de suppressions d'emplois, de postes. Et bien, finalement, ils ont réduit. Il n'y a que 4000 suppressions de postes d'enseignants pour la rentrée 2026, ce qui n'est rien. Je rappelle qu'il y a plus d'un million de personnes qui travaillent dans l'éducation nationale, dont 850 000 postes. Alors, est-ce que c'est une...
Est-ce que
c'est une bonne nouvelle pour faire des économies ou est-ce qu'au contraire, ça montre aussi qu'il y a une baisse de la natalité et que c'est inquiétant et qu'il va falloir quand même à un moment donné trouver des solutions?
Alors, supprimer des postes de professeurs, est-ce que c'est inévitable? 32-16 pour le dire au GG, madame la prof.
Alors, ce n'est pas inévitable, inévitable, c'est un choix politique. Donc voilà, on est à un moment de choix.
Budgétaire.
Donc, très rationnellement, on a le choix, soit entre des économies, voilà, on pense, on se dit, on va moins d'enfants, on va en profiter pour faire des économies sur l'éducation nationale, ou alors investir et régler des problèmes. Moi, je suis plutôt dans la deuxième solution. Je vous dis quels problèmes on pourrait régler. Un, on nous parle de harcèlement scolaire. D'accord? Pour régler le harcèlement scolaire, il faut les premiers à voir quand il y a harcèlement, c'est le professeur, et pour voir, c'est les signaux faibles. Pour vraiment agir, il faut agir très vite. Les signaux faibles, j'arrive plus à les voir dans une classe où voilà, ils sont pas 30. Quand ils sont 20, 21, 22, j'arrive à voir vraiment le début. Le petit prénom du père qui est murmuré, les petits regards, on arrive à les voir plus facilement. Donc sur le harcèlement, pour les signaux faibles. Pour prendre en compte les élèves à besoins spécifiques, c'est quoi ces élèves-là? Donc, des deux côtés, aussi bien si votre enfant est HPI, au potentiel intellectuel, ou si votre enfant est 10, tous les 10, 10 graphiques, 10, il y en a plein.
Disgracieux.
10, non, pas disgracieux.
1 700 000 élèves en moins.
Attends, je dis ce truc-là. Toutes ces choses-là, quand j'ai un élève
c'est
qui
parce
est...
Que vous êtes pas assez
ou alors, tout, non, je dis pas ça, je dis, non, caricature pas.
Ou
TDAH, ou les élèves qui sont TDAH, effectivement, ils prennent plus d'énergie. C'est comme au Scrabble. Élèves comptent double. Ça veut dire qu'effectivement, quand j'étais... Moi, j'ai eu la chance de commencer au lycée. J'avais des lycéens, le samedi matin, 3 heures de suite, et ils étaient 30.
D'accord.
Vraiment, je crois que j'ai jamais collé personne. J'ai dû dire, tais-toi. J'avais pas. Mais après, je suis arrivée en cinquième, dans une zone plus compliquée, et je peux vous assurer que c'était pas le même métier. Et que c'était aussi l'âge. Ça veut dire qu'un enfant à 12 ans, c'est pas pareil qu'à 15 ans. Le cerveau. Regardez vos enfants chez vous. Si vous avez un petit garçon qui a 12 ans et que vous étiez en train de lui courir alors qu'à 15 ans,
c'est
la même personne.
Est-ce qu'on peut revenir au sujet?
C'est le sujet.
Mais non, tu nous parles de l'enfant de l'âge et les rapports.
Je vous parle du terrain.
Il y en aura moins, puisqu'il y aura 1 700 000 en moins, il y aura aussi moins d'élèves à problème mathématiquement.
Moi, je vous dis simplement que pour bien faire mon métier en tant que professeur, je peux m'inventer, il n'y a pas de professeur qui arrive avec sa
carte. Dans une classe maintenant?
Non, pas du tout. Moi toute seule, avec l'occasion d'avoir des élèves moins chargés. Eux-mêmes l'ont dit. Ça veut dire que quand ils ont fait le test à l'ECP, dédoublement de classe, ils ont dit, c'est fou, les élèves lisent mieux, les élèves apprennent mieux. Et donc, du coup, ils découvraient ce qu'on leur disait depuis toujours.
même.
Donc écoutez-moi. Moi, pour moi, les enfants, c'est pas des sardines, c'est des enfants. Et donc je parle.
Donc on touche à rien.
Écoutez,
Fatima, il faut faire le maximum pour l'éducation.
Il y a même qui demandait des baisses sur le carburant, c'est ça.
Je fais du pragmatique.
Il faut faire le maximum pour l'éducation. Prof est un très beau métier. Bravo, merci à tous. Je fais attention à ce que je dis.
Mais il y a une crise des vocations.
Pardon.
Ça va régler le problème.
Le nombre d'enfants baisse. Il faut baisser le nombre de profs, c'est logique.
Parce qu'on avait des classes déjà surchargées, donc ça peut régler ça.
Et il y
avait
plein de problèmes. Aujourd'hui, avec 850 000 enseignants, j'ai refait le calcul avec le nombre d'enfants en âge d'être scolarisés, il y a un enseignant pour 13 enfants dans notre pays.
Mais tu vois bien qu'on ne peut pas faire des moyennes puisqu'ils ne sont pas répartis de la même manière sur
Il y a plein d'absentéisme,
il y a les journées pédagogiques
et donc aujourd'hui, clairement, profitons, si on peut dire, c'est pas le bon terme, mais puisqu'il y a une baisse du nombre d'enfants, nous devons dégraisser le mammouth. C'est un ministre socialiste qui l'avait dit. Hein,
on peut
pas
le dégraisser
dessus.
De plein donc, de manières. Il y a des dépenses de logiciels.
Je termine. Et il y a aussi 350 000 agents non enseignants au sein de l'éducation nationale qui sont de trop aussi. Mais si l'éducation nationale n'est pas en mesure de se réformer maintenant, alors qu'avec toute la dépense, la France est 23e au classement PISA, si l'éducation nationale n'est pas en mesure de se réformer, mais maintenant, elle ne le sera jamais.
Moi, je vous dis, vous êtes
donc,
les premiers
aimer le métier, aimer l'éducation nationale, c'est dire.
Moi, d'ailleurs, mieux payer les profs,
c'est dire.
Non, mais c'est
et
pas
il faut
la question.
Payer
moi,
les profs,
je l'ai payé.
Non, mais moi, j'ai pas envie d'être
mieux payé,
pas de la vocation. Faire mal mon travail,
Fatima,
mieux payé avec plus d'enfants qui souffrent.
Pour répondre,
moi, une inclusion ratée, on doit avoir des enfants qui sont en situation de handicap. On te dit de t'en occuper, tu peux pas t'en occuper bien.
J'essaie de répondre là-dessus.
Les enfants de la classe souffrent. Le professeur souffre. Les éditorialistes vont dire sans avoir vu ce type d'enfants, même violents, et ils vont dire
réponse,
ils font mal leur travail.
La réponse
mais
à ce que
après,
tu dis,
on s'étonne que les gens sont en burn-out. C'est pas possible.
La réponse à ce que tu dis, ce sont les classes de niveau. Tabou français. Alors,
mais
oui, il y a des enfants 10, machin, etc. On fait une classe de 10 pour les 10. Il y a des enfants avec des gros potentiels, et ben on fait une classe de 30 pour ceux qui ont une classe
c'est
de.
C'est pas du tout la tendance. Capacité. On est dans l'inclusion sans moyens.
Et donc,
il y a une exclusion de fait.
Moi, je te propose de profiter de la situation, de la démographie, pour réformer tout ça.
Donc, pour faire exactement la même chose, avec les mêmes problèmes pas réglés, avec les mêmes débats sur les mêmes plateaux, on va dire les mêmes choses et on va regretter, on sacrifie les mêmes enfants.
Problème d'éducation, c'est pas une question de.
Le niveau des élèves n'est pas lié
les
au nombre
enfants,
de
timbales.
Et dans le paradoxe français, c'est que on préfère tous que les économies et les réformes elles se fassent chez les autres et puis pas trop.
Ah non, moi je suis pour enfants.
Et je pense qu'aujourd'hui, moins 1 700 000 élèves, il y a moyen de régler des problèmes qui existent à l'éducation nationale, entre autres tous les profs pas remplacés, des profs qui sont en formation en même temps qu'ils devraient être en cours, enfin tous ces témoignages qu'on a eu ici, et il y a aussi moyen dans les 300 000 qui partent en retraite qu'il y en ait une proportion qui soit pas remplacée pour faire des économies. Je pense qu'avec 1 700 000 élèves en moins, il y a moyen de faire les deux. Voilà, ça c'est mon avis, mais je suis pas
vous
expert.
Rappelez quand il y a
de
eu
mieux
la...
payer les profs.
Vous vous rappelez
et de
la...
mieux payer les profs.
On a un directeur d'école
vous vous
avec
la crise des vocations.
Je serais plus pour mieux
mais
payer
parce
les profs.
Regardez, bien payés.
Plutôt qu'ils
regardez,
travaillent moins.
Crise des vocations où il y avait tellement pas de profs qu'on allait chercher un peu n'importe qui. Après on va nous dire il y a n'importe qui et la pédocriminalité.
Parce que t'as raison parce qu'on les met dans les mauvaises conditions.
Vous vous rendez compte? Alors qu'avoir des gens qui ont leur concours, qui sont
où, c'est quoi 1 700 000 élèves en moins.
C'est ça qu'il faut.
C'est pas une paille 1 700 000 élèves.
Tais-moi des profs.
Parce que moi je crois qu'on va avoir encore moins de scrupules à fermer les petites écoles rurales que de remettre du monde dans les ZEB. Quoi.
Enfin,
c'est pas vrai parce que c'est
on la
Paris,
connaît
dans les grandes villes, ça ferme aussi.
Regarde la carte. Moi, j'ai pris la carte de Bourgogne et je peux dire qu'il en ferme beaucoup plus en zone rurale qu'en milieu périurbain.
Vive ce maire qui a inscrit 3 vaches. Il y a un maire qui a inscrit 3 vaches pour que l'école ne ferme pas. Vive ce genre de personnes. Fermer une école dans les coins. Moi, je viens de la campagne.
On va aller en Vendée.
Bah, que les Français fassent plus d'enfants. Moi, j'adore. Moi, c'est paradoxe. C'est-à-dire que les mêmes qui pleurent la fermeture des classes ne veulent plus faire d'enfants. Parce que
moi, j'ai des solutions, mais Marie n'aime pas trop.
C'est tellement compliqué d'avoir des enfants. Et on revient à ce que disait Marine Tondelier.
C'est compliqué
de faire des enfants.
Maintenant.
Donc, alors, les gens ne veulent plus faire d'enfants. Mais alors, il faudrait maintenir le nombre de classes partout. Il faudrait le même nombre de profs. Tout ça est lié. Je suis désolé. Faites des mots, mais vous verrez, les classes resteront ouvertes.
Désolé. Moi, je les aime.
Le reste, c'est que du blabla.
J'aime ces gens qui réfléchissent. Voilà. Moi, ce que j'aime pas, c'est des gens qui vont pondre des enfants sans penser aux conséquences.
Oui, bien
donc,
sûr.
Effectivement, mais alors faudrait peut-être
nos parents,
le dosage.
Nos grands-parents, ils se posaient moins la tête.
Écoute, moi, ceux qui posent problème, c'est ceux qui font des enfants sans justement se poser est-ce que j'ai les moyens de m'en occuper. Donc, les gens qui réfléchissent un peu avant de faire des enfants, ben, gloire à ces personnes-là.
C'est des gens égoïstes qui pensent avant tout leur petit bonheur. Pas forcément.
Non, il y a des gens qui disent est-ce que j'ai le moyen de le nourrir? Est-ce que mettre au monde un enfant, c'est mettre au monde une responsabilité? Bravo à ces gens qui réfléchissent.
Heureusement, ceux qui ont connu la guerre, etc., ils avaient un peu plus de courage que notre génération.
On va aller en Vendée.
C'est pas une question de courage.
C'est
très courageux de se dire que mettre au monde un enfant, c'est l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit grand et que c'est toute ta vie qui change. C'est très courageux.
Mais à force de se poser des questions, on ne fait rien.
À la place d'en vouloir 5, je suis désolée.
À force de se poser des questions, on ne fait pas d'enfants et on se dit, je ne comprends pas, on ferme les classes.
Alors, on va en Vendée retrouver un directeur d'école.
Moi, je suis contre les fermetures de classes.
On va en Vendée retrouver un directeur d'école primaire. C'est Romain qui est avec nous. Ensuite, on sera du côté de la Loire Atlantique avec un directeur de collège.
Partout,
Romain, bonjour.
Oui, bonjour à tout le monde.
Bon, donc il y a cette donnée qui est factuelle, a priori, 1 700 000 élèves en moins en 2035. Est-ce que c'est inévitable pour vous de fermer des classes, alors, dites-moi?
Ben pour moi, non, parce que on est déjà, le problème, c'est que l'analyse, elle est uniquement théorique et elle est uniquement mathématique. Il y a un moment donné, il y a des chiffres aussi dont on parle peu, c'est le taux d'encadrement, et on fait partie des pays qui ont un taux d'encadrement, un nombre d'élèves par prof qui est parmi les plus élevés en Europe, et je pense que ce serait une bonne occasion justement de réussir à réduire ce taux d'encadrement. Il y a une donnée qui est majeure, on parle souvent de l'écroulement du système, de l'écroulement du niveau de l'éducation nationale. Il y a une chose qui n'est jamais il y a une réforme qui n'a jamais été menée, c'est de baisser drastiquement le nombre d'élèves par classe, et je pense que réellement aujourd'hui c'est la meilleure occasion de pouvoir enfin le faire. Il y a une autre chose, si je peux continuer. La dernière chose, c'est que très souvent, on fait encore une fois une analyse mathématique. On prend le nombre d'élèves, le nombre de profs, et on fait une division toute simple. J'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu et qu'on se dise que le nombre de profs, on le considère comme étant uniquement des temps pleins. Il y a énormément de temps partiel également, donc cette division qui paraît très simpliste, elle fausse totalement la vision.
Mais
donc,
ça veut dire, mais Romain, il y a une question que je voudrais vous, ramener votre premier point sur l'encadrement. Moi, je suis maintenant bientôt un vieux monsieur, j'ai 50 ans passé.
Oui.
J'ai jamais été dans des classes de 30. Par contre, on allait à la piscine à pied, on était 25 dans la classe, il y avait la maîtresse et c'est tout, quoi. Et il y a personne qui mouvetait sur le trottoir et on allait à 25 à la piscine à pied. Maintenant, pour traverser la rue, il faut 6 adultes avec 2 enfants, quoi. Je veux dire, on vit dans les normes de la France et de l'éducation nationale aussi, quoi.
Oui, mais Didier, vous prêchez, c'est pas nous, ça.
Allez-y, Romain.
Oui.
Avec vous. Moi, je suis directeur d'une école rurale. Alors, effectivement, j'ai pas 30 élèves. Par contre, pendant une époque, j'en ai...
On a perdu...
Cette année, j'en ai 23.
Le problème, c'est les zones blanches.
Et j'ai 3 niveaux.
Mmh. Oui. Oui, mais autour de l'encadrement, on a créé des normes et des choses qui n'existaient pas il y a 30 ans.
Attends, est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes ce que c'est avoir 3 niveaux? Parce que les gens connaissent pas forcément.
Ah oui, ça a toujours existé, ça.
Monsieur. On a perdu Romain, dommage. Dans un instant, on sera avec Mathieu. Mathieu,
il vit en milieu rural.
On va prendre Mathieu tout de suite. On va prendre Mathieu tout de suite. Mathieu, directeur de collège en Loire-Atlantique à Saint-Lyphard. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour à tous.
Mathieu, qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce qu'inévitablement, on va avoir moins de classes, du coup?
Mon collègue en parlait précédemment, la question de la désertification rurale, de la baisse du nombre d'élèves. C'est réel, on le voit au quotidien, même dans des départements qui, comme le mien, sont plutôt attractifs. Après, pour moi aujourd'hui, c'est moins la question du nombre d'élèves par classe que de l'encadrement qu'on propose aux élèves. Fatima en parlait très très bien tout à l'heure. La question des élèves à besoins éducatifs particuliers, elle est centrale aujourd'hui, depuis la loi, alors je me souviens plus exactement de l'année, mais la loi sur l'inclusion scolaire. On a des élèves avec des besoins éducatifs particuliers de plus en plus importants, et on a des besoins qui sont nouveaux et qui sont plus forcément aujourd'hui des besoins d'enseignement, mais plutôt des besoins d'accompagnement type AESH, voire parfois même pour certaines situations d'éducateurs spécialisés. Alors moi, je dirige un établissement dans l'enseignement privé. Je vous laisse imaginer que les moyens dont je dispose sont pas exactement les mêmes que ceux de l'enseignement public.
Combien d'enfants par classe, vous?
Oh, pff, ça dépend des niveaux, mais on peut, alors, on peut monter à 28, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, ce qui est tout à fait raisonnable, hein. Ce qui est tout à fait raisonnable. Après, quand je parlais de désertification et du baisse de nombre d'élèves, voilà, on perd des classes tous les ans. Donc voilà, ça c'est une réalité, mais c'est moins le nombre d'élèves par classe que la qualité de l'accompagnement, et en particulier pour ces élèves-là. Fatima le disait aussi tout à l'heure, et je la rejoins vraiment là-dessus. La question, voilà, c'est l'élève qui compte double, quoi. C'est l'élève qui compte double, c'est l'élève qui demande deux fois plus d'énergie que.
Il y en a toujours eu.
Que les 27
ans. Il y en a plus. À l'époque, ils n'étaient pas dans l'éducation nationale.
Il y en a plus qu'à 16 ans. Il y a des élèves que qu'avant il y avait l'éducation spéciale. Il y a des élèves qui n'étaient pas dans les classes. On a fait la technique de l'inclusion. Donc il y a des enfants qui ont besoin d'un accompagnement presque psy. Et qu'on a dans nos classes. Il y a des enfants.
Il n'y était pas il y a 20 ans.
Il n'y était pas il y a 20 ans.
Oui, d'accord. On a l'impression maintenant que tous les élèves sont des problèmes.
Je suis un des débats qu'on avait. Ça, c'est les syndicats. C'est les parents qui demandaient à ce que les élèves soient mis dans ces classes. Et quand tu disais, non, parce que ce sont des élèves à part, dont il faut prendre soin dans des.
Mais l'inclusion.
Parce qu'on était dans l'inclusion.
L'inclusion sans moyens.
Ça ne fonctionne pas, l'inclusion. Mathieu, on va continuer.
On
va continuer la discussion et je remercie Mathieu d'avoir été avec nous. On a Priscilla qui est formatrice dans le handicap, il sera avec nous, elle est dans le Gers.
Super.
On aura un professeur des écoles, Olivier, aussi du côté de la Seine-Saint-Denis. 1 700 000 élèves en moins d'ici 2035, c'est demain. Allez, je vous le vends après-demain, même si vous voulez. Mais ça va quand même venir vite.
Ce que je comprends, c'est que les profs vont se battre pour être seuls dans leur classe sans élèves. C'est assez curieux.
Est-ce que l'école doit s'adapter?
C'est j'entends, là. Ils sont tous en train de se mobiliser au 32-16.
Inévitablement.
Parce que je suis seule avec vous quatre.
Inévitablement. Il y aura moins de profs et donc moins de classes. 32-16.
C'est cool, d'être
seul. Pour continuer d'en parler avec les GG.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Vous avez le 32-16 à votre disposition, il est 10h25, pour continuer de discuter avec nous de cette perspective scolaire, c'est-à-dire la baisse de la démographie, et c'est assez factuel, on fait moins d'enfance en France, fait qu'il y a une perspective de diminution de 1 500 000 élèves dans les classes en 2035. Du coup, le ministre de l'Éducation nationale parle d'une vague sismique qui va nécessiter, c'est ce qu'il dit, de repenser l'offre scolaire à long terme. Donc Priscilla est avec nous. Bonjour Priscilla du Gers.
Oui, bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que vous en dites? Alors, est-ce que, du coup, supprimer des profs, fermer des classes, c'est inévitable?
Alors, je pense effectivement que c'est inévitable. Là-dessus, moi, je n'ai pas de questionnement. C'est inévitable, très bien. Simplement, avant de penser à supprimer des postes, je voudrais qu'on regarde un peu le fonctionnement de l'éducation nationale. Actuellement, la France est montrée du doigt pour avoir des élèves qui ont un niveau pédagogique en mathématiques, en lecture, en français, plutôt dans les moins bons d'Europe. Nous avons de plus en plus d'enfants à besoins éducatifs particuliers. Alors non, il y a 20 ans, il y en avait, mais c'était pas du tout les mêmes besoins. Et en termes de quantité, on n'était pas du tout au même niveau.
Mais est-ce que c'est vraiment lié au nombre de professeurs? Parce que ça, c'est un réflexe, syndical et d'une partie de la classe politique de dire si ça fonctionne mal, si les élèves n'ont pas le même niveau qu'avant, c'est parce que il y a pas assez de monde. Et donc, on embauche des profs, etc. Ce qu'avait fait François Hollande et autres.
Il y a trop de monde par classe.
Pardon, mais quand vous voyez les autres modèles, le taux d'encadrement, alors certes on est un petit peu au-dessus de la moyenne européenne, mais enfin c'est en général c'est 20 élèves par classe. Je crois qu'on est à 21 en moyenne par classe, nous, de mémoire en France.
Donc
on voit bien que c'est pas ça le fond du problème. C'est-à-dire regardons les pays qui sont en tête des classements PISA, notamment les pays asiatiques. Ils se battent pas sur le nombre de profs, mais c'est sur les méthodes, c'est sur les rythmes scolaires, ce qu'on veut faire apprendre à nos mômes et l'exigence aussi de niveau.
Allez-y, Priscilla.
On a peut-être un peu perdu.
Alors, il faut arrêter de parler d'exigence et de niveau, etc. En fait, vous êtes en train de parler de votre expérience de l'école.
Non, je parle de mon expérience de parents d'élèves.
Mais laisse-la
finir.
Oui, même
en tant que parent. Mais oui, voilà, c'est vrai que c'est quand même assez pénible d'être coupé tout le temps. Il se trouve que j'ai enseigné pendant 12 ans. J'ai dirigé un collège. Je suis également maman d'enfants en bas âge, dont un en situation de handicap, avec trouble du spectre de l'autisme. Et maintenant, je suis reconvertie, je travaille dans le handicap.
D'accord.
J'ai connu toutes ces problématiques d'élèves à besoins particuliers en classe.
C'est pas la majorité des élèves, quand même. Vous êtes d'accord?
Laissez-moi
terminer.
Oui.
Merci. J'ai connu des classes à 30, des classes à 20 ou 25. Je ne dis pas qu'il ne faut pas revoir les effectifs des enseignants puisqu'on va perdre 1 700 000 élèves. Je dis juste que, en fait, est-ce que ça pourrait pas être l'occasion de repenser un système qui ne fonctionne pas, de revoir le rythme scolaire et arrêter de comparer les pays asiatiques avec la France, ou avec les pays européens? On n'est pas du tout dans la même
situation. Mais il y a des pays européens qui s'en sortent beaucoup mieux que nous.
Ils font je ne sais pas combien d'heures par semaine, etc. C'est des fous furieux du boulot. En France, on n'est pas comme ça.
C'est un problème. L'éducation nationale, on ne soit pas des fous furieux du boulot, vous venez de le dire.
Laissez-moi terminer. Ouais. Effectivement, on ne peut pas demander à des élèves asiatiques et des élèves français d'être les mêmes en classe.
Oui, mais on ne peut pas régler les problèmes d'éducation nationale.
Laissez-moi terminer.
Oui, bah, si c'est un débat, Priscilla.
Les pays européens qui s'en sortent bien sont des pays européens qui n'ont pas du tout le même fonctionnement éducatif et d'encadrement.
Et alors, peut-être qu'on devrait s'en inspirer, alors.
Pas tout, mais moi, j'aimerais qu'on en profite aussi pour former les enseignants davantage au nouveau public.
Mais là, non, mais
donc,
est-ce que vous avez
dit
là, on ne peut pas, mettre en place une éducation nationale uniquement sur le prisme des enfants à problème, voilà, parce que sinon, on s'en sort pas. Il y a bien sûr les enfants autistes, etc., mais enfin, c'est pas la majorité des enfants. Il faut un système qui fonctionne pour la globalité de nos enfants.
Mais Olivier, ce que tu négliges, c'est qu'aujourd'hui,
il faut des classes de niveau.
Parents ont changé, on a beaucoup de parents qui, même si leurs enfants n'ont pas de problème, ont envie que leur enfant soit pris dans son individualité. On est dans une société de l'individu. Donc on a vraiment des parents qui demandent ça, qui veulent que leur enfant soit vu, qu'il n'y ait plus d'enfants transparents. Et si on veut que tous les enfants soient vus par l'enseignant, notamment même pour l'oral, on nous dit qu'il n'y a pas assez d'oral en classe, mais pour faire passer tout le monde à l'oral, pour entendre la voix de tous les enfants de la classe, effectivement, quand tu as 25 élèves, c'est pas pareil que quand on a 30. Et tu peux tous les entendre quand on a 25. J'ai entendu la voix de tous mes élèves. Et Corée du Sud, moi je veux bien si tu veux Corée du Sud, mais après je veux pas les parents. Moi si j'envoie, je leur dis lisez tant de livres, je vais avoir 10 parents qui vont me dire
oui, les parents tu les remets à leur place, les parents ils font trop dans l'école.
Vous les mettez, vous leur donnez trop de travail.
Justement, puisque vous avez parlé de la Corée du Sud, les chiffres officiels du ministère de l'éducation nationale sud-coréen. Moyenne des enfants par classe en maternelle, 16. En école primaire, 20. Au collège, 24 enfants, en lycée, 22 enfants. Voilà. Oui. Moyenne.
Mais il y a beaucoup d'écart avec nous.
Chiffre ministère.
En moyenne, c'est 21.
De l'éducation nationale.
Elle veut rien dire.
Voilà, la moyenne des enfants, je répète, maternelle 16, école primaire 20, collège 24, lycée 22. Alors, c'est 22,9 en lycée, c'est-à-dire quasiment 23 ans. On a Olivier qui est prof des écoles.
Elle veut pas dire grand-chose.
Du côté de la Seine-Saint-Denis.
Non, mais je veux dire, si j'ai des élèves.
Fatima, je voudrais qu'on écoute Olivier après Priscilla. Olivier qui est prof des écoles. Bonjour, Olivier.
Bonjour les grandes gueules. Bonjour.
Vous avez une classe de CE2. Qu'est-ce que vous pensez de cette baisse démographique annoncée? Ça pousse à quoi, selon vous? Dites-moi.
Moi, je dirais, alors je vais rejoindre mes collègues. Pour moi, il ne faut pas supprimer les postes, en fait. J'aimerais avoir moins d'élèves dans ma classe. Il y a une classe de mon école, ils sont 32. Moi, j'en ai 27. Si je pourrais en avoir 20, ce serait déjà très bien. Parce que ça, je pourrais mieux gérer, justement. On parlait d'oral. Fatima parlait d'oral. Par rapport à l'oral, à la poésie ou autre. Moi, l'inclusion, je suis pour l'inclusion. J'ai une élève qui est dyslexique. Elle est passée du premier trimestre à 11 de moyenne. Elle est passée à 15 de moyenne au second trimestre. Donc, en fait, quand elle est incluse dans la classe, elle est motivée. On fait du tutorat et ainsi de suite. Avoir moins d'élèves, on peut aussi voir justement, Fatima en parlait par rapport aux violences faites aux enfants. Dans une classe, il y a au moins un élève qui a
subi
des violences, le harcèlement ou des violences sexuelles.
Sexuelles aussi.
Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut aussi voir, parce qu'on est aux proches des enfants. Moi, dans le 93, c'est compliqué. Après, j'entends dans le rural, il y a moins d'élèves, etc. Justement, j'ai un collègue, lui, c'est là où j'avais fait mon stage à une époque. Il est dans le 93. Il avait une triple section. Il avait 18 élèves dans sa classe. Une classe qui faisait du CE2 au CM2. Et ça se passait très bien. Après, il avait une pédagogie, voilà. Mais quand vous avez fait la comparaison avec la Corée, je crois, etc., 16 élèves en maternelle.
Oui, c'est ça.
Nous, oui. Nous en maternelle, c'est pas 16 élèves. C'est 20, 25, 30.
Oui, c'est un peu plus.
Non, mais juste pour ajouter quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris. Quand on demande moins d'élèves dans la classe, on a l'impression qu'on dit on veut moins travailler. Mais c'est pas pour moins travailler. C'est vraiment pour pouvoir. Ouais, c'est pour travailler mieux. Oui. Je vais vous donner un exemple. Je suis moins bonne prof. Je vous dis, cette année, je suis une plus mauvaise prof que l'année dernière. Qu'est-ce qui a changé entre cette année et l'année dernière? L'année dernière, j'avais un établissement. Cette année, je suis sur deux établissements. De fait, je suis une plus mauvaise prof cette année. Pourquoi? Qu'est-ce qui change? L'année dernière, quand j'étais dans le même établissement, entre midi et deux heures, quand un élève voulait me parler, je restais avec lui. Je les prenais, on faisait des clubs. J'avais le temps de faire ça parce que j'étais sur place. Maintenant, entre mes midi et deux, je change d'établissement. Donc, je ne peux pas parler aux élèves. Je suis une plus mauvaise prof. Moi, j'en souffre parce qu'il y a plein de situations que j'ai pu voir en avance l'année dernière. Je ne peux pas les voir en avance cette année. Donc, vous voyez, quand on parle de précarité de l'enseignant, là, par exemple, moi, sur deux établissements, c'est aussi la souffrance de mal faire son boulot. Moi, je me sens très proche des infirmières qui disent, vous voyez, pour les personnes âgées, quand on dit on est moins dans le couloir, ben, c'est juste qu'une personne que tu dois changer sa protection, tu vas le faire super vite à la place d'être dans le soin et dans l'humain. Et ben moi, je me sens très proche des infirmières.
Reconversion.
Vous voyez, humainement, pouvoir bien
merci
faire
Olivier,
son boulot.
Merci à Olivier, le professeur des écoles,
ça.
D'avoir été avec nous, Olivier de Sales, ministre.
On bougera tout, justement.
On a posé la question, moins d'élèves d'ici 2035. Est-ce qu'inévitablement, il faudra supprimer des profs? Est-ce qu'il y aura des suppressions? Vous dites oui, ça paraît inévitable à 67%.